Bonjour HTP.
Hey, HTP, c'est l'automne.
Saute dans les feuilles.
Vas-y, viens.
HTP.
HTP automne.
Écoute frère, en automne, HTP radio, ça envoie des tonnes. HTP lifestyle.
Qu'est-ce qui se passe à HTP?
HTP quartier.
Tu parles de quoi là?
On parle d'HTP.
Bonjour à tous. Très content de faire votre connaissance là, aujourd'hui là. On m'avait parlé de la venue d'un groupe, mais je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Donc super, ça me réjouit beaucoup de vous voir ici dans mon garage. À moi, finalement, c'est là où on ramène nos outils, où on vient avec nos instruments, avec nos baguettes pour préparer les concerts. Donc ici, c'est vraiment notre salle de répétition. Et on m'a demandé un peu, Azdine m'a demandé un peu de parler de mon parcours pour commencer. Après, je répondrai à toutes vos questions, j'essaierai en tout cas. Et j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, voilà, donc ça c'est pour côté général. Je suis né en Alsace, donc j'ai fait mes études en Alsace, à différents endroits. Je suis d'abord né à Münster, pour ceux qui connaissent un peu. Après, je suis arrivé à 6 ans à Mulhouse. Après Mulhouse, j'ai bougé, et puis finalement... terminer mes études à Strasbourg. Donc j'ai vraiment un parcours local, des études secondaires, école maternelle, tout ça, collège, lycée, pour finir au conservatoire à Strasbourg, où j'ai développé la pratique de mon instrument. La musique, je l'ai commencé très tôt, à l'âge de 6 ans, avec une formation, vous savez, au conservatoire à Mulhouse, il y avait ce qu'on appelle la méthode Orff, on joue sur des petits carillons, peut-être que vous avez déjà vu ça, c'est des petits xylophones comme ça, pour les enfants, et puis là j'ai vraiment eu le goût de faire de la percussion, mais j'ai d'abord fait du piano encore, donc j'ai fait ça, la méthode Orff, puis du piano, et après j'ai commencé la percussion quand il y a une classe de percussion qui s'est ouverte au conservatoire à Mulhouse. Et après, j'ai eu vraiment beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était rythme, la batterie, et puis tout ça, ça m'a porté jusqu'à ma terminale, donc mon lycée. Et là, j'étais devant un choix. Maintenant, il faut que je décide qu'est-ce que je vais faire après mon bac. Parce que mes parents disaient toujours, tu fais ton bac et après, tu choisis. Et puis, donc, j'avais vraiment un désir très fort de faire de la musique. Donc, après mon bac, je me suis inscrit au conservatoire à Strasbourg et je suis rentré au conservatoire, donc tout de suite à 17 ans. Et puis, en même temps, j'ai fait la fac de musico, donc aussi université en lien avec la musique et le conservatoire. Donc, j'avais ces deux pôles. Et à la fin, je me suis vraiment concentré que sur le conservatoire, que sur la partie instrument, pour laisser un peu le côté fac de côté. Et donc j'ai suivi de 87 à 94 tout un cursus jusqu'à des études supérieures dans la percussion, très vaste. Hein. Vous savez, la percussion, on pourra peut-être faire un tour tout à l'heure dans le foyer. Je vous montrerai tous les instruments qui font partie, enfin une grande partie, parce que tous les instruments, ça ne pourrait pas remplir. La pièce ici ne suffirait pas. Mais il y a beaucoup d'instruments dans la percussion, donc des claviers, des timbales, la caisse claire, la batterie, tout ça. Et à la fin de mon parcours, il se trouve que mon professeur de timbales, qui était le timbalier ici, à l'Orchestre Philharmonique, il partait à la retraite. Et donc il y a eu un concours qui a eu lieu dans la grande salle de concert. Il y avait 34 candidats, dont moi. Et puis, le concours a eu lieu sur 2 jours. Et puis, j'ai eu cette chance-là de réussir ce concours. Et donc, depuis 94, septembre 94, oh là là, ça ne me rajeunit pas tout ça, je suis donc timbalier ici, timbalier solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Et aussi professeur au conservatoire, où j'enseigne aussi les timbales. Donc vous voyez, ça c'est mon parcours, on va dire, parcours professionnel. C'est ça qui est mon gagne-pain, avec ça que je gagne mon argent. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de passion. Aussi, comme j'avais fait du piano, je compose aussi. Et donc, je fais ça encore à côté. Et j'ai aussi la passion pour la prise de son. Donc, dans ma maison au sous-sol, j'ai un petit home studio. Donc, je fais ça encore à côté. Et tout ça, ça me remplit bien. Mes temps, plus la famille. Enfin, vous voyez le tableau à peu près de mon parcours. Voilà, Azdine, est-ce que j'ai répondu à ta première question ?
Magnifique. Moi, j'ai la première question qui me vient à Denis, c'est l'image qu'on a de l'Orchestre Philharmonique, finalement, c'est l'image d'un groupe. On se dit, vraiment, faut être hyper discipliné. Moi, comment vous les musiciens qui êtes à l'intérieur d'un orchestre philharmonique, comment vous articulez entre vos individualités, allez, je vais dire un autre mot, vos égos d'artistes peut-être, et être se fondre dans la masse d'un orchestre.
Ouais.
Oui. Est-ce que c'est une question qui est prégnante chez vous, ou quand je dis chez vous, c'est les musiciens de l'orchestre philharmonique.
Bah, c'est hyper important en fait, ouais. Azim, parce que quand on est recruté dans un orchestre, on est d'abord recruté pour son talent, pour la partie musique. Mais après, on rentre comme dans une entreprise. Vous avez des gens timides, des gens extravertis, des gens colériques, des gens très calmes, des gens posés, des gens plutôt excités. C'est un peu la physionomie d'un orchestre. C'est des personnalités très différentes. Et toutes les personnes ont réussi le concours pour rentrer. Donc, à un moment donné, toutes ces personnes étaient les premiers, voyez, pour réussir. Donc, ce qui fait que, effectivement, il y a cette, tu parlais d'ego. Il y a forcément, quand on rentre dans l'orchestre, un peu ce côté, j'ai été le meilleur. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec que des gens comme ça, qui ont été le meilleur une fois. Et ce qui fait que on apprend vite. Et il faut l'apprendre à baisser tout ce côté égo pour se considérer comme faisant partie d'un groupe. Et un groupe avec des individualités, oui, mais il faut que dans les relations humaines, qu'il y ait le respect de l'autre, respect du voisin et de l'ensemble des collègues. Et ça, c'est une dimension hyper importante.
Alors Denis, comment on fait ça ?
Et qu'on n'apprend pas quand on est au conservatoire. Parce qu'on apprend à bien jouer d'un instrument, mais tout l'aspect relationnel, ça c'est une chose qu'on apprend dans la vie, en fait. Et je pense que vous vivez ça aussi, vous, de là où vous êtes, peu importe, hein, vous voyez bien qu'à l'école, on va beaucoup apprendre des connaissances. Mais sur l'aspect relationnel, ça va être avec les copains et copines que ça va se faire, la pierre poulie la pierre, enfin, vous voyez, ou le fer aiguise le fer, vous voyez, c'est là qu'on va apprendre à vivre en société. Et donc, comment le faire ? Alors, vous voyez, il y a encore une chose importante, c'est que, je répondrai après à ta question, Azine, mais une chose importante, c'est que, notre mission à nous, même si on a des égos plus ou moins surdimensionnés, c'est que quand il y a le chef qui est devant là et qui donne le départ, on est 110 musiciens, il faut que tout le monde joue en même temps. Sur le premier temps, hein, voyez, s'il y a une mesure à 4 temps, 1, 2, 3, 4, et qu'on joue tous sur le premier temps, il va faire la levée, bam, et tout le monde doit jouer sa note, moi au timbal ou au violon, ou à la flûte, au trombone, ou n'importe quel instrument, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Et pas un qui dit, non, moi je veux jouer là, et puis l'autre, non, mais j'ai joué ma note. Non, t'as pas joué ta note, il faut la jouer tous en même temps. Vous voyez, et ça, c'est déjà notre première discipline dans l'orchestre. c'est qu'on fait partie d'un groupe et il faut qu'on suive celui qui dirige, qui va être notre chef d'orchestre. Lui, il doit rassembler les 110 musiciens. Comme un patron d'entreprise, normalement, il doit rassembler toute son équipe. Et s'il est dans la bienveillance, ça va bien se passer. Parce qu'il va donner la place à chacun d'être bien. Ici, il y a des fois des tyrans, des chefs qui sont tyranniques et qui vont avoir quelqu'un dans le collimateur et puis passer son temps à dire c'est pas bien, etc. Ça existe aussi, ça, chez nous. Aussi. Et même à l'intérieur, ça existe aussi, des fois. Où une personne est un peu fragile peut être stigmatisée. Vous voyez ce que je veux dire?
Sont pris comme des instruments de violence?
Non.
Non. Mais justement, chef d'orchestre, moi, ça m'intéresse toujours quand on voit les mouvements.
Ouais.
De nous expliquer du point de vue de là où tu es, on peut celui qui n'est pas qui est profane et qui ne connaît pas forcément, c'est peut-être des mouvements un peu comme ça.
Au hasard.
Créatif, quoi.
Ouais.
Et en fait, derrière ça, il y a quelque chose. Ouais. Juste nous expliquer techniquement comment c'est un chef d'orchestre pour qu'il puisse gérer 110, tu disais.
Ouais. C'est, en fait, c'est hyper important l'attitude et les mouvements du chef d'orchestre. Parce que lui, il brasse de l'air avec sa baguette. Il fait que ça. Hein. Il marque les temps. 3 temps, 4 temps, en fonction de la musique, 2 temps. Des fois plus compliqué encore. Mais il n'a pas de son dans sa baguette. Le son, c'est va partir de là où vous êtes assis. C'est chaque musicien qui va dire « Ok, là je joue, là c'est maintenant. » Et le rôle du chef d'orchestre, tu vois, Hakim, c'est que nous, on ne peut rien faire sans lui, mais lui ne peut rien faire sans nous.
Question comme ça, vous connaissez vos partitions?
Oui, oui.
Si je me dis comme ça, est-ce que vous auriez vraiment besoin d'un chef d'orchestre?
Alors, il arrive qu'on fait des concerts sans chef d'orchestre. Okay. Où c'est le violon solo qui est donc assis, qui est assis là, et qui, lui, peut prendre le rôle du chef d'orchestre. C'est-à-dire, il va de temps en temps se lever et donner un départ important, et ensuite, les autres écoutent. Et ça, c'est un autre élément aussi de la réponse à ta question, Hakim. C'est que, alors, il y a le chef qui bat la mesure et qui donne une vitesse, un tempo, ce qu'on appelle un tempo. Voilà, la musique va dérouler comme ça. Ça, c'est les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et ça, ce qu'on appelle en musique un tempo. Et nous, on a une partition sur laquelle on a des rythmes à jouer. Yam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pi, pa, pa, pa. Si je fais la même phrase, mais un tempo plus lent, ça fera ya, pa, 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 pa. Si c'est encore plus vite. Yap, tegada, 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 tata. Vous voyez, en fonction de la décision du chef, le résultat va être différent. Et nous, on doit réagir à ça. Hakim, tu vois? Nous, on doit réagir à son geste. Parce que des fois, en répétition, il va faire un truc, et en concert, il va être complètement dans autre chose, et il va nous emmener plus vite ou plus lentement, et nous, on ne pourra pas dire « Hé, c'est pas comme à la répète, hein ?» Non. Il faudra que nous, on s'adapte et qu'on réagisse au quart de tour.
Quelle valeur humaine, Denis, tu as développée depuis que tu es musicien en orchestre philharmonique?
Oui, alors, j'en ai parlé juste un petit peu, le côté de l'écoute. L'écoute professionnelle, dans le sens où il faut écouter les autres, jouer, ben ça c'est important. C'est qu'on ne peut pas jouer dans un orchestre si on n'écoute pas les autres. Je ne peux pas mettre un casque anti-bruit et puis faire de la musique avec mes collègues juste en basant sur les gestes du chef d'orchestre. Parce que j'ai besoin d'entendre les autres et d'être avec eux. Et il y a son pendant, ça c'est l'écoute professionnelle, mais il y a son pendant, l'écoute relationnelle. C'est être à l'écoute des autres. Des besoins, des sentiments, là où ils en sont, et de pouvoir partager avec eux et partager les expériences, ce qui va pas bien, ce qui va bien, et du coup, on appelle ça l'amitié, hein. Alors ça se passe avec certaines personnes super bien, avec d'autres peut-être un peu moins, mais ça c'est la chose la plus importante après le métier, vous voyez, c'est de développer l'aspect relationnel avec les autres. Après, donc ça c'est avec les autres collègues, même des fois quand on n'est pas d'accord aussi, des fois c'est plus difficile, hein, quand on est d'accord avec les autres, c'est toujours bien, hein, d'être sympa avec les autres, mais quand les sujets sont plus délicats et qu'on n'est pas tout à fait d'accord, bah, on est quand même dans le même orchestre, il faut quand même que ça se passe
si
bien.
Si tu n'avais pas développé l'écoute, qu'est-ce qui serait passé?
Ben alors c'est plus sur l'individualité, alors chacun se replie sur soi et puis chacun va se mettre dans son coin et ça va s'entendre
dans la musique.
Dans la musique. Ça va s'entendre
ça
dans la musique.
Ça s'est déjà passé ?
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment ?
Ben par exemple, s'il y a pas l'écoute de l'autre, s'il y a un peu la méfiance, c'est que on va peut-être pas être attentif à ce que fait l'autre. Et du coup, au lieu que nos deux coups tombent paf, parfaitement comme ça, ça va peut-être faire padam. Parce qu'on se dit, oh, j'ai pas envie de le suivre. Vous voyez ce que... Alors là, il y a des pendants avec d'autres métiers, d'autres domaines, et là, c'est universel. Parce que vous avez le s'il y a une mauvaise ambiance dans un endroit, vous savez très bien que ça se ressent, que ce soit la famille, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, ou que ce soit dans la relation avec les copains, les voisins. S'il y a une tension, on voit tout de suite que ça crée quelque chose qui fait que ça brise quelque chose dans la relation. Je sais pas, je pense que vous avez tous vivé cela aussi dans votre quotidien.
Arrête.
HTP Radio, c'est fini pour aujourd'hui.
Tchuss, salut.
Retrouve-nous sur htpradio.org.
Allez, ciao.
Bismillah. À bientôt. À plus dans le bus, ma puce.